Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Bonsoir, chers auditeurs. Kadri Aga, bonsoir.
Bonsoir, Nadia.
Eh bien, comme c'est toujours la semaine sainte en Inde, j'ai cru comprendre que vous nous parleriez aujourd'hui de Bénarès.
Certainement, Nadia. Nous avions évoqué la semaine dernière, plus précisément, Hardwar, donc la semaine sainte. Et il était question donc du pèlerinage de Hardwar. Donc, comme c'est une époque sainte, selon le cycle jupitérien, et comme on ne peut parler de sainteté en Inde sans en référer à Bénarès, qui est la première cité sainte, ancrée dans la courbe du Gange, Ganga, le fleuve sacré. Donc, c'est une ville qui est immobile pratiquement depuis des dizaines de siècles. C'est la ville la plus ancienne du monde.
Du monde, oui.
Je parle de ville, non pas la première cité dans le monde, mais disons la ville actuelle la plus ancienne du monde.
La ville actuelle la plus ancienne du monde.
Elle a survécu, d'ailleurs, à Babylone et à Ninive, qui étaient ses contemporaines aux sources de l'histoire, pratiquement. Donc ça remonte à très, très longtemps.
En effet.
Bénarès est une cité immémoriale. Elle aurait 4000 ans d'âge. Donc, c'est beaucoup pour une cité. Kashi, c'est le nom que lui donnaient les anciens. Ville de lumière. Donc, c'est cette appellation la plus ancienne qui lui était donnée. Enfin, de lointaines références, compte à, si vous voulez, sur son existence, sont déjà consignés dans des hymnes védiques du deuxième millénaire avant notre ère, donc avant le christianisme. En général, enfin, les hindous la nomment Varanasi. Varanasi, c'est le nom qui figure dans le grand récit épique de l'Inde, le Mahabharata. Le Mahabharata est d'actualité présentement en Europe, notamment à Paris. Il y a un magnifique spectacle. Donc, monté par Peter Brook. Et j'engage les gens qui se trouvent à Paris à aller le voir parce que c'est splendide. C'est splendide. Le nom donc, qui figure dans ce récit épique authentifie, d'une certaine manière, cette ancienneté. Bon, quand on a parlé de l'époque védique, bon, c'était quelque chose d'imprécis. Par contre, le texte est là. Donc ça fait à peu près, ce dont on est sûr, 3000 ans.
Oui.
Bon, c'est quand même assez important. Et, puisque le Mahabharata date de 1000 ans avant le christianisme. Mmh. Il faudrait pouvoir donc établir une corrélation entre cette partie védique, cette période védique, et cette période donc, qui remonte à 10 siècles avant Jésus-Christ. Le nom de Varanasi est issu de celui des deux noms, donc si vous voulez, de la juxtaposition de deux noms. Ce sont les noms de deux cours d'eau qui se jettent dans le Gange, à l'endroit donc où est la ville, la Varuna et l'Asie. Plutôt. Et qui anciennement délimitait la cité, l'ancienne cité, l'ancienne Varanasi. pratiquement toute sa superficie, toute la, enfin, les deux cours d'eau qui arrivaient de l'Occident, de l'Ouest, et qui se jetaient dans le fleuve sacré, établissaient donc, l'un étant au nord et l'autre au sud, établissaient avec le Gange cet ancien périmètre de la cité.
Ça faisait un angle.
Non, une espèce de, justement, une espèce de quadrilatère, carrément. Une espèce de quadrilatère qui déterminait très précisément la superficie, tout le périmètre de la ville. Et c'est justement dans ce périmètre que se trouve tout ce qui est sacré, tous les temples, tous les sites de la ville. Elle fut fondée, dit-on, on le dit, par le seigneur Shiva lui-même. Donc ses origines se confondent avec la légende, puisque donc, on dit que c'est avec Shiva. Elle était déjà là, de toute façon, et on le dit aussi, lorsque les Aryens sont venus pour conquérir l'Inde, avec ses tours, avec ses palais d'ocre et de terre, ses murailles à créneaux, ses temples couverts d'or, mais du couvert d'or non pas en feuilles d'or, mais de l'or massif pratiquement par endroits, le tout juché sur une falaise qui vient à la limite du Gange, que le Gange pratiquement caresse, fouette, le Gange sacré. Eh bien, la ville, avec tous ces sites, avec tous ces monuments, la ville transcende en permanence. Elle fait pratiquement, comme disent les hindous, léviter, donc surélever l'âme du profane, surtout quand on arrive au petit matin, quand on voit cette ville au petit matin, lorsque le soleil se lève sur une espèce d'horizon de poussière, parce que au-delà de la ville, il y a une poussière extraordinaire. Et il donne, si vous voulez, à la ville, ce soleil, par ses rayons, une impression de bûcher, une incandescence, et à travers laquelle, à travers ce bûcher, comme, si vous voulez, en comparaison, une crémation, le bûcher qu'on utilise pour la crémation, parce qu'il y a toujours des crémations, donc la crémation des morts. Et à travers, justement, ce bûcher, comme si on apercevait la crémation de la ville qui est en train de brûler pour se régénérer, pour ressusciter, parce qu'elle ressuscite chaque jour, pratiquement, toujours de plus en plus belle.
Et il y a toujours du feu à certains endroits.
Ah oui, à travers toute la ville, il y a toujours du feu. On est toujours en train de brûler un cadavre. Et si vous voulez, ça donne, surtout à travers ces flammes, donc comme si, on a l'impression, surtout le matin, on a l'impression que ce sont des flammes rouges qui enveloppent la ville, rouges et pourpres. Le soleil a une lumière particulière dans cette ville, sur cette cité. Est-ce la sainteté qui fait ça?
Peut-être.
Oui. Enfin, la ville, elle, prend de toute façon, depuis l'aube, une allure sublime. Et avec, si vous voulez, surtout des façades aux enluminures pratiquement d'or multiples.
Oui, parce
couleurs.
Que le soleil, le feu,
oui,
l'or.
Oui, l'or, exactement. Et les couleurs, beaucoup de couleurs.
Oui.
Ce qui caractérise cette ville et pratiquement toute l'Inde, ce sont des couleurs, des couleurs vives, surtout des couleurs ocre, des couleurs multiples. Donc, surtout des vieux palais qui sont établis au fil des siècles par les maharajas de toute l'Inde, parce que tous les maharajas de tous les royaumes, les anciens royaumes ou de toutes les provinces, ont bâti ou occupé un palais. Dans cette ville sainte. Elle donne l'impression d'être une cité céleste. C'est une cité céleste qui est baignée par cette tranche cosmique et Ganga. Rappelez-vous, je vous avais dit la semaine dernière, Ganga est une partie du ciel, une partie cosmique sur Terre, une partie du ciel sur la Terre.
Quelle atmosphère!
C'est impressionnant. C'est impressionnant pour les profanes, pour les gens qui arrivent et qui voient cette piété collective et puis cette beauté qui inspire la piété. C'est dans cette cité que justement les hommes deviennent des élus. On se sent un élu en sentant justement la promiscuité des dieux, parce qu'il y a des dieux partout. C'est la ville aux dieux nombreux et multiples, parce que l'Inde a beaucoup de dieux. Et les hommes arrivent par millions. Ils défilent sans cesse. La ville ne comprend, en principe, officiellement, que 700 millions d'habitants. Et elle est, surtout en période sainte, elle est submergée, pratiquement. Il y a des millions de pèlerins qui passent. Oui. Ils arrivent par millions. Il faut avoir vu Bénarès au moins une fois dans sa vie. Mais vraiment pour se rendre compte, pour justement ne plus vivre, comme disent. On dit, pour certaines villes, voir Naples, voir Venise et mourir.
Oui.
Mais après avoir vu Bénarès, les hindous espèrent ne plus vivre. Bénarès, c'est le terminus absolu. Tout s'arrête à Bénarès. Les pèlerins y viennent s'immerger et se purifier dans l'eau vers Jade, parce que, bon, bien sûr, avec tout ce qu'elle draine, cette eau, tout ce qui est jeté là-dedans, des couleurs un peu glauques comme ça.
Oui, oui.
Et cette eau qui est issue, rappelez-vous, de la chevelure de Shiva,
oui, oui. Hein,
qui a contenu les flots de Ganga, qui est arrivée furieuse. Et espérer, il faut venir justement voir cette ville avec cette eau pour espérer, eux, surtout pour les pèlerins, pouvoir y abandonner dans le feu. C'est le rêve de chaque hindou, abandonner dans le feu leur enveloppe terrestre et s'affranchir de toute nouvelle réincarnation. Parce que à Bénarès, par l'eau et par le feu, les hommes ont la conviction de pouvoir échapper à l'angoisse d'être né. La vie est angoissante pour un hindou, je vous le rappelle. Hein? Il faut... Le stade suprême, c'est la cessation totale et absolue de toute réincarnation. Parce qu'ils savent qu'ils vont être réincarnés après la mort. Et la réincarnation, la vie est un enfer. Alors c'est pour ça que leur espérance, la notion à la limite du paradis, c'est ne plus exister, c'est tomber dans le néant total. Cette ville qui est si étrangère pour le reste du monde, où, si vous voulez, la préoccupation majeure est surtout de mourir, et mourir selon l'étiquette, bien mourir. On croise d'ailleurs dans cette ville, partout, des morts dans les rues. Ils sont roulés dans une espèce de cotonnade blanche, comme ce qu'on utilise ici aussi pour les linceuls, donc pratiquement, et jetés en travers soit d'un pousse-pousse ou une charrette ou sur les genoux des passagers, donc quelqu'un prend le mort, ou bien porté au trot sur un brancard par des gens. Le soir, eh bien, tous ces morts, le soir, ils seront réduits en cendres sur les ghats. Souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé de Hardwar,
oui, oui.
Les ghats sont ces espèces de débarcadères, donc avec des marches, donc 30 degrés, et sur lesquelles il y a des crémations, sur lesquelles il y a des pandas qui sont là, des guides spirituels qui vous font accomplir tout le rituel de la religion. C'est sur les ghats, et les cendres seront jetées dans le fleuve sacré, dont l'embouchure conduit au néant absolu. C'est ça le rêve, le néant total, absolu. Les gens qui s'occupent des crémations s'appellent les dômes. Donc c'est une caste d'intouchables. Les intouchables, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des castes.
Des castes, oui.
Alors donc c'est une caste inférieure. C'est une caste d'intouchables qui a la charge de manipuler les cadavres et d'entretenir les bûchers funéraires. Ils enveloppent le corps donc dans ce linceul, ce drap blanc, donc une cotonnade légère, et le pare de guirlandes. Mais le corps est nu, totalement nu, donc comme au jour de la naissance.
Oui.
Et on met des guirlandes sur le linceul. Donc. Alors c'est le seul attribut, l'unique attribut, parce qu'il ne faut rien emporter avec soi. Tout est vanité, même sans enveloppe, puisqu'on la brûle, sans enveloppe charnelle, rien. Alors ils le mettent dans... Je précise bien dans et non pas sur un bûcher. C'est-à-dire qu'on pose le cadavre sur un tas de bois, donc sur un, Et on le rempile encore, on le met à l'intérieur, si vous voulez, on l'enveloppe de bois.
Pourquoi ? Il y a une raison ?
Oui, pour d'une part, c'est une question technique, c'est une question de crémation, et d'autre part, c'est pour ne pas voir cette enveloppe, pour que cette enveloppe disparaisse totalement. Elle est laide, elle n'a rien à voir, c'est l'âme le plus important. Oui, oui. Et donc, on le met dans le bûcher. Puis, quand le feu a bien pris, quand il y a déjà des premières décompositions, il frappe avec des gaules de bambou, donc de longs bambous, pour briser, donc en quelque sorte, les restes à demi calcinés, donc les os qui ne brûlent pas, qui ne se consument pas tout de suite. Eh bien, et puis après, une fois que donc la crémation est totale, absolue, des prêtres vont se charger, au cours d'une cérémonie religieuse, nous l'avons vu la fois passée, une cérémonie particulière, d'immerger les cendres. Donc c'est le rituel de l'immersion des cendres.
Et chacun a droit à la même cérémonie.
Oui, tout le monde a droit à la même cérémonie, enfin les prières sont les mêmes. Oui. La différence se fait uniquement au niveau du bois qui va vous brûler. Certains utilisent le santal, les plus pauvres utiliseront la bouse de vache, qui est le combustible le plus commun, le plus courant. Toutes les cérémonies sont faites à partir d'un ghat, donc ce débarcadère, ou bien l'embarcadère. C'est plutôt un débarcadère, puisque c'est à partir de là qu'on part vers l'au-delà, vers le néant absolu. Le ghat vient du mot sanskrit, rappelez-vous, je ne sais pas si je vous avais donné l'origine étymologique, de ghata. Ghata qui signifie la marche, le rivage, le bord de l'au-delà, donc en quelque sorte. Le rivage, le point d'accostage. Les habitants et les pèlerins de la ville, donc de Bénarès, se précipitent en masse, pratiquement tous les jours, au lever du soleil, donc au lever du jour, pour saluer avec ferveur et piété, donc et dévotion, le soleil qui monte à l'horizon et commence à pratiquer le puja, qui est le culte, donc, le puja du matin. Comme qui dirait ici, des religieux qui vont, de bon matin, très tôt, faire la prière du fajr, donc de l'aube. Eh bien, l'islam permet, donc quand vous avez quelques impossibilités, vous permet de ne pas vous lever et puis de faire ceci si vous êtes malade. Et tout. Et chez eux aussi, bon, et vous pourriez après le faire. Eh bien, chez les hindous aussi, mais nul ne tient à manquer cette cérémonie.
On fait ce qu'on peut
pour y aller, parce que bon. Et c'est une, pratiquement, c'est une des plus belles. Un des plus beaux rituels de la journée, donc pratiquement. C'est pour ça que les gens le font, le pratiquent. Les pandas, vous souvenez, j'en avais encore parlé, qui sont les prêtres guides du pèlerinage. Ils viennent uniquement pour le pèlerinage. En quelque sorte, chez les Arabes, le mot tawaf. Donc, le prêtre du pèlerinage, qui sont des guides, plus précisément des guides, eh bien, attendent sur ces embarcadères, sur ces points d'accostage ou de départ, sur les ghats, attendent sous leur parasol de palme les pèlerins pour leur procurer les ingrédients nécessaires au culte, donc, et à les aider, à les orienter, donc à les aider à observer les rites. Il y a, dans toute la ville, c'est la ville où il y a le plus grand nombre de ghats, étant donné que c'est une cité sainte, et elle est en bordure du fleuve sacré, il y a 70 ghats, donc 70 points d'accostage, 70 embarcadères.
Mais par exemple, sans habiter Bénarès, est-ce qu'on on peut désirer, vouloir y mourir ?
Oui, ah oui, pour l'hindou, c'est le rêve, c'est l'idéal. Même, on en avait déjà parlé une fois lorsque nous avons parlé d'Amarnath, du pèlerinage d'Amarnath.
Oui, mourir lors du pèlerinage.
De pèlerinage, vous avez dit que dans toutes les religions, même dans l'islam, mourir à la Mecque est une insigne faveur que vous accordent les dieux, Allah. C'est une faveur. Pour eux aussi, c'est mourir à Bénarès, c'est vraiment avoir de la chance, avoir la possibilité d'éviter une future réincarnation. La possibilité, on n'en est pas sûr. Les gens espèrent. Oui. Et il y a donc 70 ghats sur qui le long de la berge, qui borde le long de la berge du Gange, qui prend toute donc l'étendue de la ville sur le fleuve, donc, et qui sur à peu près 6 km, qui est l'ancienne enceinte, je vous ai expliqué, enfin un peu plus que l'ancienne enceinte. Je vous ai expliqué au début, lorsque nous avions parlé des deux cours d'eau, la Varuna et l'Asie donc. Au-delà donc de ces deux cours d'eau, cette étendue fait, enfin presque entre ces deux cours d'eau, cette étendue fait 6 km. C'est ce quadrilatère qui a 6 km de long, qui fait l'ancienne cité. Et bien sur ces 6 km, il y a 70 ghats. 70 ghats où ont lieu ces cérémonies, les cérémonies religieuses et les cérémonies de crémation. Et vous avez qui donc il délimite l'ancienne cité et il concentre tous les lieux sacrés de l'Inde, parce que tous les lieux sacrés sont restés dans cette ancienne enceinte de la ville. Tous les lieux sacrés de l'Inde qui y sont représentés. C'est-à-dire, il y a un temple, il y a beaucoup de temples, mais imaginez qu'il y a un lieu sacré, par exemple, Amarnath même trouve une représentation, un temple qui représente un temple, un lieu sacré qui se trouverait à un autre point de l'Inde, trouve une représentation là.
Ah bon ?
Oui. Pas une représentation fidèle et identique, oui, mais un temple qui est dédié, ah, donc qui commémore le sacré de ce lieu, du lieu qui se trouverait dans l'Assam ou dans un autre état de l'Inde.
Alors c'est pour ça qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est peu dire.
Oui, oui.
C'est un paradoxe. Mais ça se comprend pour cette ville. Tout y est. Je vous ai dit, on se demande si les gens qui défilent dans la rue ne sont pas des dieux et si les dieux ne sont pas des hommes. Mmh. Tellement.
Tout est confondu.
Tout est confondu. Le premier ghat, qui est le Nagua Ghat est le plus au sud et il est situé sur l'embouchure de la rivière Asi, donc qui délimite. Le dernier, le Adi Keshava, le plus au nord, donc, est au confluent du Gange et de la Varuna. Donc. Si certains d'entre eux ne servent qu'à un usage local, donc, pratiquement, la tradition veut que les pèlerins, tous les pèlerins étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs, étrangers à la cité, accomplissent dès leur arrivée le Pancha Tirthi, qui veut dire, donc Pancha, qui veut dire cinq, donc chez eux, et Tirtha, pèlerinage, le pèlerinage des cinq ghats, des cinq lieux. Alors, bon, ils le font à pied. D'ailleurs, tous les pèlerinages ont une règle, ont une espèce de parcours délimité, donc établi. Tous les pèlerinages ont ça. Les cinq ghats sacrés, qui eux représentent les cinq parties du corps de la structure de Kashi. Kashi, Varunasi, Benares. Donc, elle est déifiée, personnalisée, elle est une personne divine, cette cité.
Vous parlez de la ville. Oui, oui.
Et chacun des ghats représente une des parties de cette ville. Mm-hmm. Alors il y a ces cinq ghats qui sont sanctifiés, plus sanctifiés que les autres, et ils ont donc ils symbolisent une représentation donc d'une partie du corps. Alors, Asi ghat, donc du nom du fleuve, est le premier. Donc, il est la tête.
Oui. Forcément.
Vous avez le ghat qui est le Dajashvamedha, qui est la poitrine,
donc
le second. Mm-hmm. Le Manikarnika, le nombril. Le Panchanganga, donc Panchaganga, c'est-à-dire Pancha 5, je rappelle, et Ganga, fleuve, donc Gange, Saint-Gange, je vous expliquerai plus tard, sont les cuisses, représentent les cuisses de la cité. Et Adis Keshava,
Les pieds.
Voilà. Vishnu, dit-on, eut la magnanimité de déposer ses divines empreintes, comme Hardwar aussi. À Benares, bien sûr. Asi ghat, donc, marque l'endroit, le premier donc qui est la tête, marque l'endroit où la Durga qui est une épouse de Shiva, donc l'épouse de Shiva, laissa tomber son épée. Donc, à cet endroit précis. Et au moment de la chute, cette épée haute, en touchant le sol, creusa un ravin où coule la rivière. Donc, la rivière Asie. Bon. Il y a un lingam, vous souvenez de l'espèce de stalagmite, hein, comme oui, à Amarnath,
oui, oui.
Donc, lingam phallique, qui est situé sous un arbre pipal, donc. Et qui attire la foule, une foule de dévots qui viennent y déposer leur offrande de fleurs et d'eau sacrée du Gange. Je vais prendre l'eau juste à côté. Bon, pour faire un dépôt, c'est le rituel, le symbole même du rituel du Gange. Tous les Ghâtes, tous sans exception, commémorent.
Les
70.
Ah, d'accord.
Non, pratiquement. Eh bien, tous les Ghâtes commémorent. Soit un événement mythique, événement donc religieux, ou un fait historique ou politique même.
Oui, oui.
Des fois. Bon, bien sûr, on ne va pas les citer tous parce que nous n'aurons pas assez d'une heure pour les évoquer.
Les six privilégiés représentaient la ville et le corps humain.
Les cinq.
Les cinq, oui. Les
Pancha.
Cinq.
Pancha, oui. Bon, on va citer pour mémoire que certains, tels le Anandamayi, qui porte le nom d'une sainte femme, contemporaine, c'est récent, donc politique. Donc ça, c'est un fait politique, commémore une fête politique. Un fait politique, et cette femme a été sanctifiée. Vous avez le Chetsing, Ghat, bon, on dit le Chetsing, tout ça, qui est un magnifique palais. Donc il marque un site touristique et historique, en quelque sorte. Un magnifique palais du XVIIe siècle, qui était la propriété personnelle du Maharaja de Benares. Vous avez Kedara, qui est au-dessus du plus vieux temple de Benares et qui est dédié à Shiva, donc au dieu Shiva. Vous avez Chanki, qui est le Ghat au serpent aquatique sacré. Donc il y a des serpents aquatiques sacrés qui sont menaçants, qui sont sculptés d'ailleurs dans ce temple. C'est à la fois effrayant et séduisant, ça vous attire. Qui sont fêtés en juillet. Alors, il y a aussi le Dobi. Le Dobi qui est le domaine de la caste des Dobi. Cette caste des Dobi, c'est celle des blanchisseurs. Donc, c'est encore une caste... Non, c'est la caste des... Il reste dans les intouchables aussi.
Ah bon, c'est
une sous-caste, comme les Dômes aussi, une sous-caste. C'est la caste des blanchisseurs. Alors, vous avez le Rana Mahal, qui est un magnifique palais garni de tourelles sculptées. Et il a un Ghat à lui, spécial. Vous avez le Dasash Vahmeda, qui est la poitrine donc, de Kashi, et qui est le deuxième Tirtha, donc le deuxième partie des cinq parties, quand je vous ai parlé maintenant, de Benares.
Oui, la poitrine.
Oui. Qui est le deuxième Tirtha, donc, puisque je vous dis la poitrine de Kashi. C'est un des plus spectaculaires. C'est là que Brahma, dit-on, accomplit le sacrifice, qui est Mehda, donc sacrifice, en sanskrit, védique de 10 das, donc c'est à peu près la même chose. Donc, chevaux, ashva. Donc, le nom vient de das, 10, ashva, chevaux, Mehda, sacrifice de 10 chevaux. Le Ghat du sacrifice des 10 chevaux. C'est le point de rassemblement des mendiants, des lépreux et des sadhus. Les sadhus, souvenez-vous, ce sont ces ascètes qui se baladent nus, couverts de cendres. Il y a le Mir Ghat, donc, qui est la maison de retraite des veuves qui attendent la mort à pied d'œuvre. Vous avez le Mani Karnika, qui est le troisième Tirtha. Donc, le nombril. Hein, nombril de Kashi, donc de Benares. C'est le plus ancien et le plus sacré des Ghats de Benares. S'y faire incinérer est un privilège réservé aux riches brahmanes. Non pas les brahmanes prêtres, mais les brahmanes de la caste des brahmanes. Donc, la caste des brahmanes. Il doit sa sainteté au puits qui est situé au-dessus du Ghat, creusé par Shiva, qui était parti à la recherche, donc, comme dit la légende, d'une boucle d'oreille qui est Manikar, donc d'où vient son nom, le Manikar, Manikar Nika, donc Manikar, perdu par Parvati. Parvati, donc son épouse à paraître, on en avait parlé.
Parvati a beaucoup fait parler d'elle.
Exactement, et elle est très vénérée. Et qu'il l'emplit de sueur, donc en cherchant, il a fait ce trou, il l'emplit de sueur. Panchaganga, right, le Panchaganga Ghat, qui est les cinq Panchaganga, cinq gorges. Alors il doit son nom, ce Ghat doit son nom à une tradition qui le considère comme le point de confluence entre quatre rivières secrètes, qui n'apparaissent pas, donc quatre rivières secrètes, c'est ce qu'on dit, et du Gange. C'est le quatrième Tirtha, donc les cuisses de Kashi. Au-dessus donc de ce Ghat, donc Panchaganga, au-dessus de Panchaganga, s'élève la mosquée Alamgir du célèbre empereur Aurangzeb. Aurangzeb qui est un des empereurs qui a fait beaucoup parler de lui. Il y en a eu d'autres, les empereurs mongols, moghols, qui étaient musulmans. Et les autres ont fait parler de tout, beaucoup d'empereurs comme Kabir, comme comme Akbar. Une confusion, Kabir, c'est autre chose. Lorsque nous avons parlé, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé des quatre volets après le pèlerinage d'Amarnath, je vous ai parlé des Sikhs et je vous ai dit que Kabir avait donné l'impulsion au sikhisme. Oui. Donc, donc c'est comme Akbar et d'autres empereurs ont été célèbres, mais celui-ci doit sa célébrité est triste. Il la doit à une forme d'intolérance, alors que tous les autres étaient tolérants. C'est un des rares empereurs, c'est un des rares rois donc musulmans qui était intolérant en Inde. Alors celui-ci avait détruit pratiquement tous les sites hindouistes. Il avait saccagé. Pratiquement, oui, parce que il a essayé d'appliquer à sa lettre, à lui, oui, pratiquement, l'islam. Mais ce n'était pas ça, puisque tous les autres ont témoigné une grande tolérance. Lui, il s'est distingué par cette forme d'intolérance. Il avait construit une mosquée qui était très très belle d'ailleurs. Cette mosquée a été construite au XVIIe siècle. Et plus tard, maintenant cette mosquée n'a plus ses tours. Une des tours est tombée dans le Gange au XIXe siècle. Et l'autre a été coupée parce que, il n'y avait pas. Elle menaçait, ils l'ont enlevée parce qu'elle menaçait de s'écrouler.
De s'écrouler. L'autre côté étant tombé.
Voilà. Mais la mosquée est belle. Elle est très très belle. Alors il y a après le Adikeshava, qui veut dire l'originel Vishnu, et qui est le cinquième Tirtha, les pieds de, et qui est l'empreinte des pieds du dieu, puisque on dit qu'il a eu la magnanimité de laisser ses empreintes dans cette ville. Alors au confluent du Gange et de la Varuna, donc à cet endroit. Au-delà de tous ces ghats, la ville compte surtout et essentiellement des temples. Je vous ai dit, d'une part, il y a une représentation de tous les lieux saints, donc une commémoration des lieux saints ou des endroits sanctifiés de l'Inde. Et en plus, vous avez une vénération donc, de tous les dieux. Et les dieux sont nombreux. On dit que l'Inde compte 330 millions de dieux. Vous vous rendez
330
compte
millions.
Millions de dieux.
Et ils sont représentés tous à
non,
Bénarès.
Non, il n'y a pas 330 millions de temples, heureusement. Parce que sinon, Bénarès aurait été une affreuse mégapole immense. Non, non.
Non, non, dire représentés.
Non, mais représente les principaux. Il y a des temples qui sont dédiés à plusieurs dieux en même temps. Mais ça vous donne, à la limite, si même si on n'en représentait qu'une infime partie, ça vous donne un nombre mais très très grand, très élevé, un nombre élevé de temples. Et il y a un nombre élevé de temples. Et c'est ça, parce que le panthéon étant, le panthéon donc religieux, le panthéon hindou, étant très développé, et comme chacun apporte une vénération particulière à l'un ou l'autre, alors il est normal que nous trouvions des sites, des architectures qui commémorent ou qui cette vénération. Et ils sont tous, tous les dieux, dit-on, tous ces 330 millions sont citoyens de Bénarès. Tous ces 330 millions de dieux, parce qu'ils sont évoqués à l'un ou l'autre des endroits.
Et parce que Bénarès, c'est la première ville sainte.
C'est la ville sainte.
La ville
sainte. La ville sainte, c'est la plus grande.
D'accord.
Bon, il y a des endroits saints
sanctifiés.
Ardoire est aussi une ville sainte, rappelez-vous, Ardoire,
oui, oui, oui.
Oujna et tout.
Mais c'est différent de Bénarès.
Hein? Oui, c'est différent de Bénarès. Bon, et il y a, et ce qui est assez extraordinaire aussi, la ville abrite donc pratiquement 2000 temples pour vénérer tous ces dieux. 2000 temples, c'est extraordinaire, 2000 temples. Et il y a aussi, comme toutes les religions sont représentées, toutes les religions de l'Inde, vous avez 300 mosquées à Bénarès. Et c'est d'autant extraordinaire parce qu'il n'y a pas une seule ville musulmane au monde qui a autant de mosquées. Et Bénarès n'est pas une ville musulmane. Alors, donc 300 mosquées, c'est assez extraordinaire. Et ces mosquées sont belles. Elles sont très belles, surtout avec l'empire mongol, les grands mogols ont donné à la religion musulmane une espèce de luxe, une espèce de si vous voulez, ils ont essayé de montrer à tous ces hindous, à tous ces gens qui n'étaient pas musulmans, la grandeur de cet islam. Et cette grandeur s'est traduite par cette architecture, par les enluminures, par l'art. Un des temples les plus impressionnants est le Vishnavat. Le Vishvanat, qui veut dire le seigneur de la totalité. Non. Eh bien, c'est un peu le commencement qui est appelé donc, le temple d'or. Pourquoi ? C'est le commencement, donc le seigneur de la totalité, c'est le commencement et l'absolu. Et le Vishvanat est appelé le temple d'or. Il a été détruit à plusieurs reprises par Aurangzeb, cet empereur. Et il fut reconstruit au XVIIIe siècle par une Maharani, donc la femme d'un Maharaja, donc du royaume d'Endor, un royaume très éloigné donc de Bénarès, à l'ouest. Sa majestueuse toiture, et c'est ce qui frappe quand on arrive, c'est extraordinaire, est recouverte de plus de 800 kilos d'or.
Ah bon ?
Oui, ce n'est pas une peinture ou de la feuille d'or, donc c'est une couche d'or. 800 kilos, le temple d'or.
Le temple d'or.
De l'or fin. Il y a aussi un temple qui est aussi célèbre, qui est le temple de Annapurna. Annapurna, c'est aussi une cime de l'Himalaya, un des pics de l'Himalaya, le plus élevé. Parce que les hindous vous diront que l'Himalaya n'est pas, on n'a pas encore atteint la cime de l'Himalaya.
Le
point culminant.
Ah, oui.
Et c'est l'Annapurna, donc, et le sanctuaire, ou du moins l'un des sanctuaires les plus vénérés. Si ce n'est pas le sanctuaire le plus vénéré, c'est l'un des plus vénérés. Il est surtout consacré à Kali, la déesse noire, qu'on représente avec son collier de crâne. Kali, qui est aussi une moitié, qui est la deuxième partie de Shiva. Non pas son épouse, mais qui est sa projection féminine, souvenez-vous.
Oui, oui.
Le temple Durga, lui, plus connu sous le nom du temple des singes, qui sont très agressifs, représentés agressifs, et qui est recouvert d'une peinture ocre, rouge, et très beau. Il est très très beau, c'est le style Nagara du nord de l'Inde, et il a été fait au XVIIIe siècle. Il est vraiment très très beau, les gens vont le voir pour sa beauté, sa beauté anglaise. Ce n'est pas uniquement, justement, à cause de tous ces temples, à cause de leur beauté, et les sites religieux, que la ville est considérée comme un des centres mystiques les plus importants du monde. Parce que vous vous rendez compte, 2000 temples. Est-ce que vous connaissez un centre religieux dans le monde qui puisse en afficher autant ?
Non, Benares seulement.
2000 temples, 300 mosquées, sans parler des temples jaïns, sans parler des... Même les sikhs sont représentés. Alors, c'est surtout... C'est pas donc pour tous ces temples, hein, ce n'est pas pour ces sites religieux, mais c'est surtout pour la ferveur et la piété de ses occupants et de ses visiteurs. Il y a des prêtres donc de toutes les religions de l'Inde, et les rues de Benares, de Kashi, donc cette ville ancienne, sont peuplées d'ascètes. Vous avez parfois des groupes qui défilent, des groupes d'hommes tout nus, recouverts donc de cendres, qui sont ces sadhus, qui défilent dans les rues comme ça. Oui, on a l'impression d'arriver dans une autre planète, surtout quand on arrive d'Occident, un Européen qui arrive et qui voit ces gens tout nus, voire 100 personnes toutes nues dans la rue, comme ça, on se dit, mais où suis-je? surtout avec la beauté du site et tout, puis on est dans un autre monde. Et... si vous voulez, à l'époque, dans le temps, on y enseignait la foi dans les rues. Dans la rue, vous trouviez à n'importe quel coin de rue des gens en train d'enseigner aux autres la religion, le sanskrit, donc les textes sacrés. De nos jours encore, vous pouvez, c'est ce qui ajoute encore à l'étonnement quand on arrive, un homme et une vache, en train de se faire des politesses, qui pratiquement se croisent avec difficulté, l'un qui essaie de céder le passage à l'autre. Et alors là, ça nous fait poser le problème. Beaucoup de gens croient que les Indiens adorent la vache. Non, c'est son frère.
Oui, ils la considèrent comme...
C'est pareil. Ils ont été créés par la même divinité. Il n'est pas rare, d'ailleurs, de voir un pèlerin murmurer contre le pavillon de l'oreille d'une vache des paroles sacrées d'un mantra. C'est une espèce de ferveur qu'il y a entre frères animaux et humains, créés par les mêmes dieux. Vous savez, à Benares, chaque geste, chaque attitude évoque un autre. Donc chaque geste, chaque attitude, un autre ou une autre attitude, un autre comportement ancien, esquissé aux sources des temps par un dieu, parce qu'on pense que tel dieu a agi comme ça. Il faut essayer de faire comme lui. Tout à Benares, tout, mais absolument tout, a valeur de symbole. Comme, par exemple, vous avez cette attitude des Gambaras, qui sont des Jains. Souvenez-vous, les Jains, c'est une autre religion. Ce n'est pas des hindouistes, c'est une autre religion hindoue. Donc, les Jains, souvenez-vous, c'était des gens qui avaient peur de faire du tort à une toute autre espèce, même si un microbe vivant. C'est ces gens qui se promènent en balayant la rue de crainte d'écraser un cafard ou un verre ou n'importe quoi. Eh bien, les Digambaras, qui sont, eux, vêtus de ciel, c'est-à-dire soit avec un simple linge flottant, ou alors tout nu, comme à leur naissance, et qui, eux, se disent, ces Digambaras, se disent descendants en droite ligne d'Adam, donc le père de tous les hommes.
Ah, parce
de tous
que
les
là, êtres. On croit à Adam.
Ah oui, le premier homme.
Ah oui,
non, Adam
il fait partie de toutes les religions.
Toutes
alors.
Les religions, chaque peuple a un père. Et c'est pratiquement, il n'est peut-être pas appelé de la même façon.
Ah oui, d'accord.
Hein? Bon. Et c'est souvent un père mythique, ou alors, souvenez-vous, au niveau de certaines ethnies primitives, ce père a vocation, souvent plutôt une représentation zoomorphique. Donc, mais ou alors il a épousé un symbole ou une concrétion d'une force astrale, ou par exemple féconder la lune ou le soleil ou la mer. Oui. Donc, mais il y a toujours eu un père, le premier. Le premier, c'est un prince, ou c'est... Bon, mais c'est un homme, le père de tous les hommes. Alors, bon, il est appelé Adam par les monothéistes, mais d'autres religions aussi, Adam. Eh bien, les Digambarans, eux, se disent descendants en ligne droite, directe, donc, d'Adam. Ils ont le front qui est loin de terre et de cendre. Ils ont le regard qui est tourné vers l'intérieur. Ils marchent comme s'ils étaient aveugles, sur les tréfonds, donc le regard tourné sur les tréfonds de leur âme. Ils se jugent, ils se remettent en question sans cesse, donc perpétuellement. Ils sont attentifs à chaque pas pour ne pas écraser. Donc ils sont attentifs à ne pas écraser la vie d'une espèce, la plus infime soit-elle, je vous ai dit. Et attentifs à franchir en pleine connaissance le seuil de leur mort prochaine. Bénarès, c'est une ville fascinante. C'est une ville qui, a priori, vous prend, vous enveloppe. Elle est captivante. C'est surtout la ville de la connaissance profonde, donc la connaissance de la vérité religieuse, puisque c'est une ville sainte. C'est une espèce de thébaïde, donc cet endroit où on se retire pour se recueillir, pour méditer. C'est une thébaïde où se retirent les sages, où se retirent les lettrés, ceux qui veulent avoir la connaissance, donc les artistes, qui sont aussi des espèces de prêtres en soi, puisqu'ils véhiculent un message symbolique, un comportement. Les artistes, chacun faisant le point de sa vanité, parce que chaque corps, chaque être humain est une vanité. Eh bien, chacun faisant le point de la vanité, donc sa propre vanité, la vanité de tous les hommes, de l'homme en général, puisqu'on le brûle, cet homme, il ne doit plus exister, il ne doit plus revenir, il ne doit plus être là. Il n'y a que les dieux, seuls les dieux ont droit de citer. Eh bien, Bénarès, c'est aussi une ville qui a été, puisque je vous ai parlé des artistes, je vous ai parlé de l'art, une ville qui a été mère de musique. Non point cette musique qui meuble un espace, cette musique qui vous rythme donc un moment. Bon, pas du tout. C'est une musique qui s'enseigne, qui s'apprend comme au catéchisme, comme un catéchisme. Donc, celle qui, non pas... Celle qui, si vous voulez, en quelque sorte, par sa beauté, anéantit, vous efface, pour n'être que là. Celle qui constitue un magma de votre corps et de ce qu'elle émet, de ce qu'elle crée, de ce qu'elle provoque. Celle qui s'acquiert, je vous ai dit, comme une religion, qui est un comportement religieux, et qui devient, quand on l'apprend, un sacerdoce. La musique, on ne peut pas vous enseigner, vous savez, un étranger qui viendrait, quelqu'un qui n'est pas hindou, qui n'est pas indien, ne peut pas apprendre à jouer d'un instrument en Inde. Bien sûr, on vous montrera, mais ce n'est pas ça. Même si vous savez tirer des sonorités, ce n'est pas ça. Il vous faut des années et des années, parce qu'il faut pouvoir traduire l'âme.
Oui, oui, c'est ça.
C'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, il y a un bistrot, une espèce, je dis bistrot entre guillemets, une espèce de café qui est Chai Baba, chez Chai Baba. Chai Baba,
c'est un café à Bénarès.
Oui, à Bénarès. Oui. Et dans vraiment un café assez extraordinaire, où tous les adeptes, je dis les adeptes de la musique, je le dis à bon escient, c'est-à-dire ceux qui viennent écouter religieusement de la musique, se donnent rendez-vous. Alors il y a Chai Baba qui est assis là, imposant, qui ne bouge pas, qui a toujours les mêmes gestes. Chai Baba, c'est Baba, Chai, le Chai c'est le thé, il sert du thé.
Ah, oui,
du
oui,
thé.
Oui.
Alors vous êtes là, on vous sert du thé, et tout le monde vient pour avoir l'insigne privilège, parce que pour trouver une place, ce n'est pas facile, l'insigne privilège d'écouter Ustad Bismillah Khan. C'est un musulman, donc. Mais Ustad Bismillah Khan joue, c'est le plus grand
le seul, dit-on, joueur de shanaï. Le shanaï, c'est une sorte de clarinette qui donne des sonorités extraordinaires, des sonorités qui vous font transcender, justement, pour ceux qui viennent écouter religieusement cette musique. Et c'est le café, le bistrot d'ailleurs, est de Chai Baba, et dans un quartier qui est Kabir Chaudhar. Kabir Chaudhar, c'est un immense sanctuaire de la musique, où ne vivent que des musiciens dans tout ce quartier. Les gens viennent pour apprendre. Et il y a des académies de musique à chaque coin de rue. On appelle académie parce que le nom, en quelque sorte, est venu comme ça. Enfin, c'est un euphémisme. Mais la musique s'enseigne, ou s'enseignait dans le temps, et elle continue. Elle ne s'enseigne pas dans donc avec une table, dans des classes, pas du tout. C'est d'un gourou, un guide qui enseigne à un disciple. De maître à élève. Il n'y a pas plusieurs, il y a un seul. Parce que vous devez pouvoir communier totalement avec ce gourou qui, lui, a déjà communié avec quelqu'un d'autre. C'est la chaîne. Donc, la chaîne de religiosité. Vous devez pouvoir communier avec lui. Et vous n'arrivez pas. Il vous faut des années, pour pouvoir enfin traduire l'esprit des anciens dans cette musique. Il y a tout est fait. L'université de Bénarès, faut dire, fut depuis très longtemps, la première où l'on enseigna, par exemple, les techniques musicales. Hein? Bon, mais que les techniques. Il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'esprit. Autrefois, je vous ai dit, donc la musique, c'était le gourou, et ça continue, le gourou au disciple. Cela continue, bien sûr, à se pratiquer. Tout ceci continue à se pratiquer. Et la ville, elle, comprend, d'une certaine manière, de nombreux ashrams de musique, surtout dans ce quartier. Les ashrams, donc, c'est le lieu saint, c'est le lieu où on vient communiquer. Il y a des ashrams religieux. On appelle ça des ashrams, comme pour la religion. Tous les arts jouissent, je vous ai dit, d'un intérêt quasiment mystique dans cette ville. Parce qu'ils prennent, justement, une véritable signification religieuse, et ce qui est leur sens originel, leur sens fondamental. La musique a toujours, primitivement, elle a toujours servi la religion. C'est comme ça qu'elle est venue. Mais ce que les hindous viennent avant tout apprendre à Bénarès, c'est le sanskrit, donc la langue des dieux. On vient dans une cité mystique pour apprendre la langue des dieux, là où tous les dieux sont représentés. D'ailleurs, l'étude du sanskrit est une véritable tradition en Inde. Il y a même une bibliothèque qui comprend 150 000 exemplaires, ou manuscrits donc, 150 000 originaux de Puranas, qui sont des textes sacrés. Et qui traduisent, tous ces textes traduisent la vérité profonde, celle qui se cherche par tous les moyens. Les Agoris, qui sont une secte vouée donc aux soins des lépreux et qui cherchent leur vérité dans le feu qu'ils entretiennent sans interruption depuis 5 siècles. Le feu qui brûle dans leur temple brûle depuis 500 ans, plus de 500 ans. Et eux aussi ont justement cette notion de vérité. Ils recherchent, ils essaient de rechercher à travers le feu, à travers Kali qu'ils vénèrent, cette vérité profonde. Bénarès est une ville d'eau, et certes, mais c'est aussi, et surtout, les dieux ont besoin de feu et de lumière aussi pour se nourrir. Alors, c'est une ville d'eau, une ville de feu, une ville de lumière. Dans le Tatari Bazar, qui est le quartier populeux, donc le Tatari Bazar, où on vend tout, donc le bazar.
Le bazar.
Tout est lumière et couleur. Depuis les étoffes de soie, qui sont les saris, qui sont tissées de fil d'or, les parures de fiançailles qui sont installées sur des arbres de bois dorés et peints en jaune et rouge aussi. Vous avez les essences de fleurs, de frangipanier, de jasmin, de rose, tous les amoncellements de poudre qui sont rouges et safranées pour les offrandes ou pour peindre donc les fronts. Ils contiennent, vous savez, d'ailleurs, les fronts, la peinture qui est sur les fronts de chaque Indien traduit l'appartenance. C'est, donne une véritable idée donc de l'individu. C'est une véritable carte d'identité qui porte sur le front. Ce sont des tilaks. Donc, tilak, on appelle les tilak, qui marquent l'appartenance soit à une secte, à une famille. Donc vous avez les shivaïstes, surtout donc les sadhus, qui sont les ascètes donc, qui vénèrent Shiva, ont trois barres blanches, horizontales, sur un fond vermillant. Vermillon, rouge. C'est, dit-on, le troisième œil du dieu. Souvenez-vous, hein, troisième œil du dieu, qui est la perception transcendantale.
Enfin, quand vous dites, souvenez-vous, je vais quand même dire de quoi ? Des Lulua Okasai, c'est
ce les Lulua Okasai, et aussi Shiva dans la grotte à Marnat.
Ah, oui,
quand il a vu la vérité. Vous avez les Vishnouistes, eux, ils ont trois traits verticaux. Donc, et puis avec une tache de cendre entre les deux yeux qui indique le passage du fidèle au temple. Ça veut dire qu'il a été au temple.
Oui, oui.
Les femmes, d'ailleurs, les femmes mariées, hein, se teignent en rouge, vermillon, la raie médiane de leurs cheveux. C'est comme ça qu'on sait que c'est une nose. Il n'y a pas d'alliance, mais c'est cette teinture sur les cheveux qui dit que cette femme est mariée ou pas. Le point carmin que les femmes se mettent là sur le front, donc entre les deux yeux, il avait plutôt avant une signification rituelle dont il est difficile de retrouver l'origine. On pense que c'est de la coquetterie pour l'instant, c'est maintenu. Mais ça pourrait être aussi le troisième œil, donc ce point rouge. Puis comme la femme, donc ça symbolise aussi Parvati, la femme, la parèdre donc de Shiva. Et aussi, on dit que ce point rouge chasse le mauvais œil. Tout est à pratiquement à la couleur même, tout à la couleur, tout est illuminé, tout a une valeur lumineuse dans la couleur. Eh bien, même le passé et le temps qui, lui, a une espèce de saveur enivrante. C'est peut-être dû à la proximité des dieux. On dit qu'après avoir visité la ville, on ne peut plus s'en passer. On a toujours envie de revenir. Mais c'est normal. Moi, je connais beaucoup de pèlerins qui sont allés à la Mecque et qui vous disent, qui vous tiennent le même langage.
Ah oui, moi aussi, j'en connais.
Oui, pratiquement. Oui. Tout est dans la foi. Chacun, bien sûr, a la sienne avec ses délires et ses transports. Chacun ses gestes, chacun a sa geste, la geste religieuse, celle qui, de tout temps, concilie le ciel aux hommes. À Bénarès, qui est une ville immobile, une ville qui ignore les chronologies, puisqu'elle est très ancienne. Il arrive aux étrangers profanes, comme vous, comme moi, de confondre humanité et divinité. On se demande si les hommes qui se baladent dans la rue ne sont pas des dieux réincarnés. C'est là, d'ailleurs, le mystère de cette ville que rien ne pourra affecter, tant elle est animée par une foi merveilleuse. C'est ça, Bénarès.
Eh bien, nous nous sommes crus sur place durant une heure. Nous nous sommes crus, donc, à Bénarès. Merci, Kadriaga, et bonsoir.
Bonsoir, Nadia.
Bonsoir, amis auditeurs. Bonne nuit, et à la semaine prochaine.